Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Avec le retour des nationalismes, la guerre hante de nouveau le monde. En 3 mois, depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a ordonné le bombardement d'une base syrienne, réaction à la mort de 90 villageois de Khan Cheikhoun, tués par du gaz sarin lâché par l'aviation de Bachar el-Assad. Le même Donald Trump a fait larguer la mer de toutes les bombes, comme on dit, sur l'Afghanistan, et il menace de représailles la Corée du Nord, si elle poursuit ses activités militaires nucléaires. La Russie de Vladimir Poutine semble de nouveau une menace pour l'Occident. Les pays européens sont vivement incités à augmenter leurs dépenses militaires. Les forces françaises sont en Afrique, elles participent aux opérations en Syrie. Et pour terminer cette énumération, les tensions sont très vives à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, mais on pourrait continuer encore longtemps. Alors partout, les achats d'armes se portent bien. L'un des exemples les plus emblématiques, c'est la France, qui a réussi ces dernières années à vendre ses avions Rafale à l'Égypte et à l'Inde, ses sous-marins à l'Australie. Ce qui est très bon pour la balance commerciale française, qui ne se porte pas bien, vous le savez. Alors, marchand d'armes, est-ce un métier d'avenir? Quel rôle jouent les industries de la défense dans l'économie internationale et dans les économies nationales? Ceux qui prônent parfois une bonne guerre pour relancer des économies en panne ont-ils raison? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Marianne Guille.
Bonjour.
Marianne Guille, vous êtes maître de conférences en économie à l'université Panthéon à Sas. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc puisque vous êtes spécialiste des banques et de la défense. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux univers ?
Oui, tout à fait. En fait, je suis au départ partie de recherche sur la monnaie et la finance, et j'en suis venue à étudier les problèmes de financement des entreprises innovantes, et j'en suis venue aux entreprises de défense, parce que ce sont des entreprises qui innovent beaucoup et qui ont des problèmes de financement spécifiques. Donc, il y a bien un lien en ce qui me concerne.
Et donc, elles se financent auprès des banques ?
Elles se financent pas forcément auprès des banques, mais elles se financent aussi, elles reçoivent beaucoup de financement public, mais elles se financent aussi auprès des banques, notamment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises duales hein, qui font aussi du civil.
On en parlera dans l'émission. Avec nous dans ce studio à vos côtés, Julien Malizard, bonjour.
Bonjour.
Julien Malizard, vous êtes chercheur à la chaire d'économie de défense, qui est dans l'orbite d'une institution importante en France, l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Cette chaire, c'est une création récente ?
Alors, la chaire a été créée en 2014, c'est récent, c'est un centre de recherche qui a été constitué pour travailler sur ces questions-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de réflexion universitaire en économie de défense, et donc nous sommes là pour produire de la recherche, diffuser nos travaux et fédérer des chercheurs autour de ces questions.
Par exemple, quelle est la dernière publication à laquelle vous ayez participé ?
La dernière publication à laquelle j'ai participé, c'est une publication sur le coût des opérations extérieures.
Alors ça tombe très bien parce que nous allons en parler dans cette émission au cours de laquelle il y aura bien sûr des reportages. Nous irons à Bamako au Mali rejoindre Anthony Fouchard, à Kaboul en Afghanistan où nous attend Sonia Ghezali et à Moscou pour retrouver Muriel Pompon. Dans les programmes des principaux candidats à l'élection présidentielle, il y a un point qui semble faire l'unanimité, c'est l'augmentation des dépenses militaires à 2% du budget de la nation. C'est une augmentation, et est-ce que c'est susceptible de constituer un élément de relance pour l'économie française ? C'est une question que je vous pose à tous les deux. Marianne Guille, vous voulez répondre ?
Je pense que le budget de la défense, effectivement, peut être augmenté à 2%, mais c'est déjà un effort budgétaire conséquent pour la France. Après, l'effet relance sur l'économie ne sera pas forcément très important parce que la part de ce budget, si on regarde le PIB de la France, ça représente, comme vous l'avez dit, 1,78% pour l'instant. Donc, si on passe à 2%, ça n'aura pas un impact décisif sur la relance de l'économie.
Mais Julien Malizard, le budget de la défense et les dépenses de défense, c'est quelque chose d'important pour l'économie française au-delà du budget.
On vient de le dire, ça représente un peu moins de 2% du PIB. Ouais. Là où c'est important, c'est sur les dépenses d'investissement. Donc le ministère de la Défense, c'est le premier investisseur public de l'État. Et donc, dans ces conditions, on a des éléments de relance assez intéressants, puisque quand on achète des matériels de défense, ce sont des matériels qui ont vocation à durer sur le long terme. Un sous-marin, par exemple, c'est 40 ans d'espérance de vie. Donc, dans ces conditions, ce sont des effets d'entraînement qui vont durer tout le long du cycle de vie des matériels, au moment de la fabrication, de la conception en amont et de la maintenance par la suite. Donc, on a sur des investissements qui sont majeurs, c'est à peu près 75% des investissements de l'État qui sont concentrés dans les dépenses militaires. Donc là, on a un élément de relance assez important. Et les travaux que j'ai pu faire jusqu'à présent montrent que si jamais on atteint un effet positif en France des dépenses militaires, il va transiter quasiment exclusivement par les dépenses d'investissement. Parce que ça va stimuler la R&D et ça va stimuler...
La recherche et développement.
Et ça va stimuler tout un bassin d'emplois d'entreprises qui sont hautement technologiques. Et les entreprises de la défense en font partie.
Donc, ce qui rejoint ce que disait Marianne Guy tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des entreprises innovantes, les entreprises de production militaire.
Voilà, ce sont des entreprises qui innovent énormément. Et les produits d'armement aujourd'hui sont de plus en plus technologiques. Donc, dans cette augmentation du budget de la défense, si elle est destinée à acheter des produits d'armement nouveaux, et sophistiqué, évidemment, ça relancera plus l'économie et ça aura un impact sur l'économie qui sera plus important grâce à cette innovation qui peut servir aussi à des produits civils.
Innovations militaires, elles se transportent dans le civil beaucoup ?
Alors, il y a des retombées classiques. Hein. Par exemple, aux États-Unis, on s'est rendu compte que tout le secteur de l'électronique, de l'aviation, dans le secteur des médicaments, par exemple, aussi, on a des retombées qui dans le civil, donc des innovations militaires qui ensuite se retranscrivent dans le civil. En Californie, par exemple, 5 des 10 plus grandes universités américaines sont en Californie. Elles ont bénéficié des financements publics de la défense. Il y a dans les 50, 60, 70, et bien, désormais, ces financements servent à irriguer le tissu d'entreprises des GAFA, par exemple.
Google, Amazon, exactement. Facebook et Apple.
Exactement. Donc les retombées ici, c'est sur le long terme, on le voit une nouvelle fois, et on s'est rendu compte que ça irrigue tout ce tissu d'entreprise.
Et puis, si ma mémoire est bonne, Internet est aussi une invention des militaires, Marine.
Bien sûr, oui. Donc, Internet à Silicon Valley n'existerait pas sans le ministère de la Défense américain, qui a énormément investi dans ces entreprises, parfois même dans des objectifs complètement civils, qui ensuite ont pu servir aussi à la défense.
Donc, et est-ce qu'on retrouve cette même proximité entre le civil et le militaire, cette même mécanique dans d'autres pays? Je pense en Europe de l'Ouest, en France, en Allemagne.
Alors je pense que les financements du ministère de la Défense français sont plus ciblés sur des entreprises défense, purement défense ou duale. Mais quand ils financent une entreprise qui investit dans un avion de chasse comme le Rafale, c'est sûr que ça va se propager après à des avions qui auront des objectifs plus civils.
Julien Malizard.
Alors juste une précision en termes de budgétaire, on se rend compte que le budget américain de R&D, c'est
recherche et développement,
c'est l'équivalent du budget de la défense français. Ouais. Donc on est sur des niveaux de dépenses qui sont pas du tout comparables. Donc les Américains financent très largement, là où la France fait un choix de cibler plus spécifiquement les matériels de défense. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Dassault, on se rend compte que il y a une espèce de financement croisé entre le Falcon et le Rafale.
Et le Falcon qui est un avion civil.
Et le Rafale, l'avion de combat de l'armée française. Ça compense, en plus, on s'est rendu compte que l'activité du Falcon est très orientée à la baisse ces derniers temps, et le fait qu'on rachète beaucoup de Rafales à l'étranger compense le fait que l'activité civile soit déclinante.
Alors, actuellement, ce qu'on appelle en jargon militaire les OPEX, les opérations extérieures, que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient, coûtent un peu plus d'un milliard d'euros par an au budget de l'État français. Est-ce que ça contribue par ailleurs spécifiquement à financer ou à développer des industries militaires françaises? Est-ce que le fait de se déployer à l'international a un impact quelconque sur le niveau ou la qualité ou l'orientation de la recherche et du développement dans l'industrie française?
Déjà, on peut voir aussi que sur les exportations, le fait qu'on ait utilisé les avions Rafale lors de l'opération en Libye en 2011, d'aucuns ont pu considérer que c'était un exemple de l'efficacité de l'avion, et donc on a pu l'exporter par la suite plus facilement. Après, pour répondre plus spécifiquement à votre question, en fait, les matériels français, certains qui sont déployés en opération extérieure, datent d'il y a 30 ou 40 ans. Ils sont un peu usés, et ils s'usent d'autant plus vite qu'ils n'ont pas été conçus pour les théâtres d'opération pour lesquels on les emploie aujourd'hui. Donc ça pose des difficultés d'emploi, mais on est en train de renouveler un certain nombre de matériels, dans les hélicoptères, les véhicules blindés, par exemple, qui seront normalement adaptés aux nouvelles conditions d'emploi.
Et tout ce matériel, Marianne Guy, est-ce qu'il se renouvelle beaucoup en ce moment? Est-ce que l'industrie française produit beaucoup?
Elle a augmenté, bien sûr, sa production là dans les dernières années, mais ce sont des matériels qui se produisent sur une très longue période. Il y a un effort de recherche et développement qui prend beaucoup de temps, etc. Donc, pour renouveler des matériels, ça prend du temps et il faut un investissement budgétaire conséquent. C'est sûr que avec les contraintes budgétaires, le budget de la défense a pâti de la situation économique française et que ça va mettre du temps avant qu'on puisse moderniser complètement le système d'armement français, et que les OPEX, et effectivement, ça utilise tous les matériels qui sont en condition opérationnel, et donc ce qui se retrouve sur le territoire français, après, ça peut poser des problèmes parce qu'on a des matériels qui sont moins efficace.
Alors, l'une des opérations extérieures de l'armée française, bien connue, c'est le Mali, l'opération Barkhane, qui s'étend au-delà du Mali. Le Mali, où se trouvent aussi des troupes des Nations Unies, et pour l'économie malienne, cette guerre, malgré tout, c'est pas tout à fait une manne. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anthony Fouchard à Bamako.
Depuis l'installation de la mission de l'ONU au Mali, les professionnels de deux secteurs en particulier se frottent les mains, l'immobilier et l'hôtellerie-restauration. Quand on se promène dans le quartier Badalabougou, difficile de manquer les opulentes villas, les nombreuses maisons en construction au bord du fleuve. Elles sont louées à des prix pouvant aller jusqu'à 3 millions de francs par mois, soit près de 4 500 euros. Madou Diara est agent immobilier, il écume ces quartiers du centre de Bamako devenus très prisés.
Et puis l'ONU demande certaines exigences aussi, des maisons qui sont un peu sécurisées, des maisons qui sont très bonnes en état, des maisons où on trouve pratiquement tous les matériels et autres là. Donc ça coûte cher. Donc quand on veut quelque chose de bon, très bon, tu payes cash, tu payes cher.
Dans sa petite agence immobilière nichée au cœur d'un quartier populaire, Madou Diara l'affirme, cette hausse des prix des loyers n'a aucun impact sur le Malien lambda, car les exigences, dit-il, ne sont pas les mêmes.
Sinon, quand on est pauvre, tout le monde a sa part. Hein. Parce qu'il y a des maisons qu'on loue ici jusqu'à 5 000 francs par mois. Il y a des maisons qu'on loue à 2 500. Il y a des maisons qu'on loue à 50 000. Quand on prend un Malien d'ici, quand on lui demande de travailler ici, quand on lui propose un prix de 75 000 francs, il le prend. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de travail ici.
Du côté de la restauration, difficile de trouver un responsable qui veuille bien s'exprimer. Hors micro, un gérant explique tout de même qu'il a fallu investir, surtout depuis les attentats, dans des portiques de sécurité, mais aussi dans le gardiennage des parkings. Conséquence, les prix à la carte pour le même plat peuvent quadrupler entre un établissement malien et un établissement étiqueté expatrié. Quant aux expatriés, justement, ils doivent jongler entre les différentes enseignes pour tirer les prix vers le bas. C'est le cas de Cédric Lepers, il est à Bamako depuis un an.
Alors, pour faire ses courses, ici, c'est un peu la galère. Il n'y a pas de supermarché à proprement dit. Il n'y a que des petites supérettes ou des supérettes moyennes. Et du coup, les prix sont libres. Tout simplement, les céréales, à côté de chez moi, je les paye 3000 francs. Si je vais dans une autre enseigne, je vais payer jusqu'à 4000 francs. Donc voilà, du coup, on est obligé d'aller vraiment à la pêche au bon prix.
Dans les faits, le coût de la vie n'a pas augmenté outre mesure à Bamako. Pour peu de savoir négocier et de connaître les bons endroits, l'économie de la capitale s'est tout simplement adaptée à ses nouveaux clients. Beaucoup plus riche.
Un reportage signé Anthony Fouchard à Bamako. Alors pour ceux qui ne le savent pas, 3000 francs CFA, c'est environ 4 euros, un peu plus. Ce qui frappe là, c'est qu'il y a deux économies qui semblent totalement imperméables, parallèles. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien Malizard ?
C'est souvent le cas avec des économies qui vivrières à l'échelle locale, et puis après vous avez par-dessus des étrangers qui se greffent et qui ont leur propre mode de production, leur propre mode de vie. Et donc c'est assez logique. Le problème, c'est que ça peut entretenir un sentiment d'inégalité qui est peu propice au développement, en fait.
C'est-à-dire un sentiment d'inégalité peu propice au développement.
Du coup, on s'est rendu compte que certains niveaux de développement étaient dramatiques pour permettre le développement du pays. Et donc, une des premiers objectifs du développement, c'est justement de contribuer à réduire les inégalités. Le Mali fait partie des pays où l'indice de développement humain est le plus faible au monde.
Donc, et vous avez d'autres exemples à donner de ces cas d'implantation militaire qui ont pu nuire au développement du pays où ils se trouvaient?
C'est un peu ambivalent parce que les implantations militaires peuvent associer de la sécurité. C'est très bon, la sécurité, pour le développement local, mais parallèlement à ça, c'est aussi propice à un certain nombre d'économies parallèles qui n'est pas toujours favorable à l'économie nationale en global.
Marianne Guillier.
Oui, je pense que effectivement, l'intérêt de l'intervention militaire française au Mali, c'est surtout d'assurer la sécurité et de permettre à l'économie de fonctionner en elle-même, mais pas d'assurer une relance de l'économie du Mali. Donc ça permet à l'économie de fonctionner, aux commerçants de se déplacer, aux gens de pouvoir vivre leur vie normale, mais l'impact de relance que ça peut avoir sur l'économie du Mali n'est pas très important. En revanche, ça permet d'assurer cette sécurité qui est nécessaire au développement de l'économie.
Or, la présence de ce corps expéditionnaire français ou d'autres nations à travers les Nations Unies, est-ce que les pays africains sont de gros acheteurs d'armes, Julien Malizard ?
À part le Tchad, dans la région, c'est la principale armée de la région, il n'y a pas vraiment d'acheteurs africains. L'Algérie achète un peu de matériel, la France exporte un peu aussi au Maroc, ponctuellement. Et puis c'est à peu près tout. Après, les autres économies n'ont pas les moyens de financer ce genre de matériel qui peut être souvent très lourd.
Je crois que le Mali a quand même proposé d'acheter des Super Puma à l'armée française, à Airbus Hélicoptère. Mais effectivement, le budget de défense du Mali est quand même faible. Mais ça permet, l'intervention française permet à la France de conserver son statut de partenaire privilégié. Et si le Mali doit acheter des armes, certainement qu'il favorisera la France.
Mais au-delà de ces pays sahéliens, il y a des grandes nations comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, qui ont toujours été des puissances militaires, Julien Malizard.
Oui. Alors, ce sont des pays qui utilisent leur rente pétrolière principalement.
L'Angola.
Surtout, oui. Le Gabon aussi, par exemple, qui finance leurs dépenses militaires par ce biais-là. Parce que justement, l'idée, c'est que si on a des ressources naturelles, on a de l'argent, et donc on est susceptible d'être menacé par des rivaux qui peuvent être soit des États, soit des groupes rebelles. Et donc l'idée, c'est de s'équiper pour éviter, pour dissuader les groupes rivaux de venir récupérer la rente sur place.
Aucune de ces nations n'a été assez puissante, assez développée pour construire une industrie de l'armement, Marianne Guy.
À part le cas de l'Afrique du Sud. Qui, dans le cas de l'apartheid, a été obligée de développer ses propres capacités de production sur des matériels très spécifiques. Il n'y a pas eu d'exemple de développement local d'industrie africaine.
Revenons à la France, qui a remporté de gros succès ces dernières années avec ses avions Rafale et puis la signature de gros contrats avec l'Australie. Est-ce que ça a eu des conséquences sur l'emploi en France ? Est-ce que ça en aura ? Est-ce que c'est bon pour l'emploi en France, dont on sait que c'est un des grands problèmes du pays ?
Oui, tout à fait. Alors, on sait que l'industrie de défense, elle embauche à peu près 165 000 personnes sur le territoire français, qui vont travailler pour à la fois la production nationale, mais aussi pour l'exportation, hein, bien sûr. Et donc, c'est favorable, l'exportation. Ça permettra sûrement d'augmenter ses effectifs, hein, notamment chez Dassault ou d'autres entreprises qui ont réussi à vendre de gros contrats à l'étranger. Mais l'impact sur le chômage, je pense pas qu'il a été mesuré pour l'instant, et ça ne permettra pas de résoudre le problème du chômage. Il faut voir que l'objectif premier des dépenses de défense, c'est d'assurer la paix et la sécurité, c'est pas de relancer l'économie. Donc je pense pas qu'on pourra relancer l'économie simplement en portant le budget à 2%.
Je ne crois pas que quiconque y pense. Julien Malizard, des retombées sur l'emploi de ces contrats à l'export ?
Alors probablement, c'est assez faible, comme vient de le dire Marianne, parce que ce sont des emplois qui sont hyper spécifiques. Et pour former un soudeur, on estime qu'il faut une dizaine d'années. Donc si jamais on embauche maintenant, il sera opérationnel qu'en 2027. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc on se rend compte que les industriels français ont du mal à réagir à la commande internationale. Prenez le cas de Dassault pour les Rafales. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'être capables de produire au-delà de un Rafale par mois dans sa chaîne de production. Donc répondre à la demande internationale, ça demande du temps parce qu'il faut avoir de la main-d'œuvre formée et qualifiée sur place. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de goulot d'étranglement sur tout un tas de pans de métiers. Pareil dans le secteur des sous-marins, il y a apparemment des ruptures sur certains métiers. Donc on se rend compte que ça va générer de l'emploi, mais ça demande du temps parce que les compétences associées sont spécifiques et donc on a besoin de temps pour les former, en fait.
Alors, on continuera à parler de ça dans la deuxième partie de cette émission, parce que nous sommes arrivés au moment où nous nous séparons pour quelques minutes pour un rendez-vous d'actualité. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie de la défense. Deux invités dans ce studio, Julien Malizard, chercheur à la chaire d'économie de défense, et Marianne Guille, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons beaucoup parlé de l'importance des industries de défense dans l'économie française. Nous avons fait une incursion à Bamako, au Mali, où nous avons vu que les retombées de cette situation de guerre que connaît ce pays sahélien n'étaient pas très significatives pour les civils. On dit souvent, Julien Malizard, qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne guerre pour relancer l'économie. C'est quelque chose qu'on entend dire dans les conversations de tous les jours, quand on est un peu pessimiste. C'est vrai ?
Ça peut être vrai, mais disons qu'il ne faut pas se leurrer. Dans les travaux que j'ai pu mener, j'ai même écrit une thèse sur le sujet, il n'y a pas de consensus sur le fait que les dépenses militaires sont bonnes pour l'activité économique. Donc il y en a qui disent que c'est bien, d'autres qui vont dire que c'est pas bien. Si on prend le cas de l'Allemagne et du Japon, qui sont les deux grands perdants de la Seconde Guerre mondiale, on a pu croire que la guerre leur a été favorable, parce que ça y est, c'était les pays qui ont eu le taux de croissance le plus élevé dans le monde occidental après la Seconde Guerre mondiale, sauf que c'est des pays qui ont subi une déconstruction totale de leur économie, et donc les taux de croissance qu'on a observés dans ces pays-là se relèvent plus du rattrapage qu'autre chose. Je ne suis pas convaincu que la guerre soit bonne pour l'économie en tant que telle. Après, c'est vrai que il y a des moyens, comme on disait tout à l'heure, pour que les dépenses militaires irriguent un certain nombre de secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure.
C'est mauvais pour les pays qui sont en première ligne, mais pour les pays qui sont en deuxième ligne, par exemple les États-Unis, est-ce que le fait de devoir fournir des armes en masse n'a pas conforté la place des États-Unis comme première puissance économique mondiale dans les années qui ont suivi, Marianne Guy?
Oui, certainement. D'autant que le budget de la défense américain, il joue une part plus importante dans le PIB américain que pour ce qui concerne la France. Donc forcément, l'effet de relance, s'il y a une augmentation de ce budget, est plus forte. Et il y a eu de très fortes augmentations du budget de la défense américain. Et effectivement, ils n'avaient pas été touchés par la guerre. Donc eux, ils n'ont eu que l'impact positif d'accroissement de leurs dépenses. Mais rien ne dit qu'un accroissement d'un autre type de dépenses n'aurait pas entraîné des effets sur l'économie plus importants.
L'un des pays qui tire très bien son épingle du jeu dans le commerce mondial des armes, à l'heure actuelle, c'est la Russie. À l'époque déjà lointaine de l'Union soviétique, l'un des piliers de l'économie communiste, c'est ce qu'on appelait et qu'on appelle toujours chez Poutine, le complexe militaro-industriel. Muriel Pomponne, la correspondante de RFI à Moscou, a rencontré Andrei Frolov, le rédacteur en chef du magazine « Exportation d'armement » au Centre d'analyse des stratégies et des technologies, Andrei Frolov, auquel elle a demandé quel était le poids de ce complexe militaro-industriel. Écoutez sa réponse.
D'après les dernières statistiques, il y a près de 1300 entreprises qui font partie du complexe militaro-industriel. Le nombre d'employés, si on compte avec leurs familles, serait au nombre de 2 millions. En ce qui concerne le volume de la production, c'est plus difficile à évaluer. Le PIB de la Russie représente près de 1860 milliards de dollars. Et pour revenir sur les exportations, la part des exportations des armes russes représente 3 à 4% si on compte en dollars.
Comme vous parlez des exportations, quels sont les principaux pays acheteurs ?
En Russie, tout ce qui concerne les exportations d'armes est peu transparent. En ce qui concerne les nouveaux contrats, ici, la situation des deux dernières années est assez originale. D'après le bilan de l'année 2015, les autorités russes ont fait savoir qu'elles avaient conclu des nouveaux contrats pour 26 milliards de dollars. C'est un chiffre sans précédent pour les exportations russes parce que le chiffre moyen avant 2015 était 15 à 16 milliards. Et en plus, nous, en tant qu'experts, on ne comprend pas à quoi est due cette hausse de presque 10 milliards. Pourtant, les livraisons restent stables et les cinq dernières années, elles sont évaluées entre 13 et 15 milliards de dollars.
Est-ce que, d'un point de vue purement économique, l'intervention en Syrie a été rentable ?
Pour analyser, il faut savoir combien coûte la guerre en Syrie. Et ces chiffres, globalement, on ne les a pas. Au printemps de l'année dernière, Poutine a fait savoir que la guerre a coûté 26 ou 30 milliards de roubles. Mais je pense que le montant est sous-évalué et on ne sait pas exactement ce que ce chiffre comprend. Quand on pose la question sur la rentabilité du conflit, on sous-entend que ce conflit aurait pu booster les exportations. Même si nous partons du principe que ce lien existe, le marché d'armement est fait de telle façon que les négociations sur certains contrats contrats peuvent durer plusieurs années. Et donc, s'il y a un lien, on devra le ressentir cette année ou l'année prochaine.
On a un peu l'impression, vu de l'extérieur, que sans ce complexe militaro-industriel, l'économie russe aurait bien des difficultés.
Les autorités proposent aux entreprises du complexe militaro-industriel d'entrer sur le marché civil, de chercher des commandes et de développer la production civile, alors qu'elles n'ont pas la capacité à le faire. Une partie importante de l'industrie militaire russe se trouve dans les mains de Rostec. Cette société d'État est en train d'élaborer une stratégie de développement jusqu'à 2030, selon laquelle elle trouverait un équilibre entre la production militaire et la production civile. Mais compte tenu des ressources de Rostec, il est fort probable que seulement quelques industries arrivent à se transformer et donc à survivre à cette diminution des dépenses militaires.
C'était donc Andriy Frolov, rédacteur en chef du magazine Exportation d'armement, au micro de Muriel Pomponne, correspondante de RFI à Moscou. Julien Malizard, je vous ai vu beaucoup réagir pendant cette interview, comme si vous étiez un peu surpris de ce qui était dit.
Surpris, oui et non. En fait, on sait très bien que la Russie, c'est un grand exportateur d'armes. Les pays clients, c'est plutôt des pays type la Chine, l'Inde, l'Algérie, le Vietnam. J'ai regardé les statistiques, d'après le CIPRI, la Syrie apparaît au 12e rang.
Le CIPRI, qui est un institut de recherche à Stockholm.
Exactement. Donc la Syrie apparaît au 12e rang des exportations depuis la fin de la guerre froide pour la Russie. Donc c'est pas une cible privilégiée de la Russie, la Syrie.
Mais Marianne Guy, quand on travaille sur les industries d'armement, est-ce que la Russie, c'est un cas qu'on étudie beaucoup?
Oui, je pense que c'est un cas particulier parce que le secteur de l'armement a vraiment une importance grande dans l'industrie russe, plus grande qu'aux États-Unis ou en France. On estime que ça représente à peu près 50% de la production brute manufacturière en Russie, donc c'est énorme, et à peu près 30% des effectifs de cette industrie. Donc c'est un cas spécifique, mais on manque de données fiables sur la Russie. Donc
Julien Malizard, il n'y a pas de statistiques. Andriy Frolov semblait ne pas en disposer, en tout cas, de statistiques récentes et fiables.
Alors, les statistiques sont peu fiables, effectivement. Le CIPRI, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, corrige les chiffres officiels en rajoutant entre 20 et 25% du budget tel qu'il est présenté par le ministère de la Défense pour avoir une véritable estimation de tout ce que le ministère dépense. Et dans le cas des industries, en fait, on s'est rendu compte que l'industrie russe est assez peu efficace de ce point de vue-là. À chiffre d'affaires à peu près équivalent, elle emploie entre 2 et 4 fois plus de personnes. Donc on se rend compte que du coup, il y a beaucoup de corruption.
2 et 4 fois plus de personnes que
le secteur français ou occidental dans sa majorité. Et donc c'est un secteur qui est peu efficace et qui bénéficie beaucoup de contrats publics dont on pense que l'argent disparaît. Il y a beaucoup de corruption apparemment, d'après ce que peuvent dire des experts russes.
Est-ce que ça a beaucoup changé par rapport à ce qu'était le complexe militaro-industriel des années 50 à 80, 90, à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique?
Apparemment pas beaucoup. Ce sont des entreprises qui sont essentiellement tournées vers l'État, où il y a peu de concurrence, qui bénéficient de grands contrats d'armement de l'État, mais donc qui sont peu efficaces, et donc il y a beaucoup de retards qui se sont accumulés dans la livraison de nouveaux programmes, là où la Russie a des besoins capacitaires assez, extrêmement importants pour renouveler les matériels qui datent, pour l'essentiel, de la période de la guerre froide.
Marianne Guy, l'industrie militaire, est-ce que c'est une industrie où on échange beaucoup ou est-ce que c'est une industrie où on cloisonne, où on protège, où on cherche à espionner le concurrent? Quelle est l'ambiance?
Bah, certainement, on cherche à maintenir un certain secret, mais il y a quand même de plus en plus d'industriels de l'armement qui vont déposer des brevets, par exemple. Avant, ils préféraient garder secret certaines technologies, etc. Maintenant, ils vont de plus en plus se mettre à déposer des brevets parce qu'ils se financent justement aussi de plus en plus sur les marchés et qu'il y a un besoin de valoriser les connaissances. Donc, je pense que les pratiques changent dans l'industrie de la défense, en tout cas dans les pays occidentaux, mais bien sûr, certainement, il y a quand même des problèmes d'espionnage dans l'industrie de la défense.
Mais quand on exporte un avion Rafale ou un sous-marin en Australie, il y a aussi ce qu'on appelle les transferts de technologie. Est-ce que c'est quelque chose d'important?
Oui, de plus en plus, il y a des transferts de technologie qui sont demandés par les pays acheteurs, qui permettent cette diffusion des techniques.
Julien Malizard, c'était quelque chose d'important, le transfert de technologie. Est-ce que, par exemple, la France, quand elle vend un sous-marin, elle est obligée de se, en quelque sorte, défaire de ses secrets de fabrication?
En partie. L'idée, c'est que, en fait, la France, pour obtenir des contrats, accepte des contreparties. qui peuvent être des transferts de technologie et la production d'une partie du matériel sur le territoire. Donc en fait, la grande partie du contrat en Australie pour les sous-marins va être faite en Australie même. Les problématiques du Rafale en Inde, par exemple, c'est que jusqu'à présent, l'Inde n'a pas les capacités industrielles pour fabriquer ce genre de matériel. Pour le moment, on a fait les avions en France. On imagine qu'à un moment donné, l'Inde sera capable de maîtriser la technologie et de maîtriser la chaîne de production. Je trouve aussi que la littérature sur le sujet montre qu'il y a, finalement, c'est assez peu efficace et il n'y a pas d'exemple d'industrie de défense qui soit partie de rien et qui ait bénéficié des transferts de technologie pour ensuite concurrencer les pays occidentaux.
Donc c'est pas une menace pour l'avenir de l'industrie militaire française, par exemple?
C'est pas une menace sur le court terme. Sur le long terme, ça pourrait l'être. L'essentiel pour la France, c'est qu'elle maintienne sa capacité d'innovation via ses budgets de recherche et de développement qui sont de l'ordre de 750 millions et 3,5 milliards d'euros en global pour justement permettre à la France de gagner, enfin, d'avoir un avantage technologique par rapport aux pays où la production est à bas coût, typiquement la Chine, ou qui fait une percée spectaculaire sur le marché des exportations.
Alors justement, où en est le commerce mondial des armes? Est-ce que c'est un commerce qui est florissant en ce moment, Julien Malizard?
C'est un commerce qui est sur une pente ascendante, très, très clairement. On avait un point bas dans les transferts d'armes au début de l'année 2000, et on se rend compte que là, on est sur une pente clairement ascendante. Les marchés qui demandent le plus de matériel de défense, ce sont les marchés du Moyen-Orient et de l'Asie-Océanie, cette grande aire géographique, sachant que d'un point de vue historique, il semblerait que le niveau de transfert d'armes qu'on observe actuellement soit environ égal à 60% de ce qu'on observait au début des années 80, qui a été le pic absolu en termes de transfert.
Marianne Guy, le commerce mondial, il se porte pas très bien, donc apparemment, c'est plutôt une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle?
Il se porte mieux qu'il ne s'est porté. Il y a une phase de baisse et puis il y a une phase plutôt de reprise en ce moment. En particulier, effectivement, la zone Asie-Océanie est très...
Demandeuse,
voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne chose d'assurer la paix et la sécurité dans le monde.
Qui vend le plus, par exemple, en Asie-Océanie?
Qui vend le plus, c'est les États-Unis qui vendent le plus dans le monde. Mais la France a augmenté, donc ses parts de marché, très certainement, on s'attend à ce qu'elle remonte dans le classement des pays exportateurs en 2016 et 2017.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons économie de la défense, la paix a un prix, la guerre a un coût. Deux invités, Marianne Guy, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, et Julien Malizard, chercheur à la chaire d'économie de défense dans le cadre de l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN. Alors on va partir dans un autre pays qu'on n'a pas encore évoqué, pourtant c'est un pays qui est en guerre depuis très longtemps, depuis 30 ans, l'Afghanistan. D'abord les Russes, ensuite les Américains s'y sont embourbés. Le pays survit aujourd'hui grâce à l'aide internationale, dont celle des États-Unis qui ont investi plus de 100 milliards de dollars en Afghanistan, à Kaboul, depuis 2002. La majeure partie de ces aides vont dans les secteurs de la défense et de la sécurité qui nous occupent aujourd'hui. Le taux de croissance à deux chiffres lorsque les troupes étrangères étaient présentes a fortement chuté depuis leur retrait il y a 3 ans. Et ce taux de croissance serait aujourd'hui d'environ 1,5% selon la Banque mondiale. Car malgré les attentats, une forme d'économie résiste. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sonia Ghezali à Kaboul.
Une chanteuse indienne, dos de ligne de la tête sur l'écran du petit téléviseur Panasonic installé en hauteur, image en noir et blanc. Dans ce restaurant ne passe que de la musique ancienne, insiste le propriétaire des lieux qui s'active dans la pièce d'à côté, en cuisine. Une pelle entre les mains, Oïd remue les cendres du four traditionnel.
Nous sommes le plus vieux restaurant de Kaboul. Avant, il n'y avait aucun lieu comme celui-là.
Waïd Bachi Bourout a 40 ans. Depuis la mort de son père, il est le patron du Bachi Bourout Restaurant, créé il y a plus de 70 ans et situé dans le quartier du Vieux Kaboul.
Les gens viennent de tout l'Afghanistan. Mazar-e-Sharif, Kandahar, tout le monde nous connaît là-bas.
La spécialité de la maison est le chaignaki, un ragoût de mouton qui mijote dans une petite théière de terre cuite. Des centaines sont alignées sur la plaque du grand four traditionnel.
Durant l'invasion soviétique, sous le régime taliban, nous n'avons jamais fui, ni à Jalalabad, ni au Pakistan. Nous sommes toujours restés. C'était très difficile, surtout en janvier 1993. Kaboul était encerclé par différents groupes de moudjahides, et ici, où l'on se trouve, c'était la ligne de front, alors on a dû fermer une année.
Durant la guerre civile, il ne servait pas plus de 10 Chainaki. Aujourd'hui, il en sert 250 par jour. Le plat est vendu 180 afghanis, soit 2,50 €, avec une tasse de thé préparée dans de grands samovars en cuivre. Le restaurant de Wahid fait partie de l'économie informelle, une économie de la débrouille qui s'adapte aux situations. Mais en Afghanistan, il y a aussi cette industrie qui tente de persévérer, malgré les difficultés.
Le problème principal est celui de la sécurité. Et puis il y a la corruption. Elle est partout dans l'administration et cela nous empêche de travailler, d'avancer de façon efficace dans nos projets.
Sahi Ahmad Payman est le patron de la société Payman Ice Cream, fabricant de crème glacée. 1000 employés à travers le pays, dont 400 sur le site de Kaboul, dans la zone industrielle de la capitale. Cornets et bâtonnets glacés de la marque Payman se vendent entre 15 afghanis et 30 afghanis, environ 30 centimes d'euros en moyenne. Son business est plutôt florissant, même si Sahi Ahmad Payman reconnaît que les temps sont difficiles.
De 2002 à 2013, c'était les meilleures années de production. Après, il y a eu une chute. Je suis satisfait, mais la situation actuelle n'a rien à voir avec les débuts. J'ai dû licencier 10% de mon personnel et réduire ma production de 20%.
Exporter ses crèmes glacées dans les pays voisins est le prochain objectif que s'est fixé l'homme d'affaires. Malgré la crise économique et le conflit en Afghanistan, Sahi Payman est déterminé à rester ici.
Un reportage signé Sonia Ghezali à Kaboul. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une économie de guerre? Qu'est-ce que c'est qu'une économie de guerre, Julien Malizard?
Alors, une économie de guerre, c'est une économie qui concentre l'essentiel de ses moyens productifs, budgétaires au niveau de l'État, à destination de la guerre. Et là, très clairement, ce n'est pas une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est ce qu'on a pu observer, par exemple, en France, pendant la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale, où le PIB, enfin, environ 40% du PIB était destiné aux dépenses militaires. Donc là, c'est une économie de guerre. Là c'est plutôt de l'économie de survivance. Hein.
Marianne Guy?
Oui, je crois que l'Afghanistan est un pays essentiellement agricole. Et donc, effectivement, il a acheté des armes aux Américains et il y a une utilisation de ces armes. D'ailleurs, on ne sait pas toujours où elles sont, en tout cas, la totalité.
Dans les mains de qui?
Voilà, dans les mains de quel groupe elle se trouve aujourd'hui. Donc l'Afghanistan a effectivement acheté des armes. L'économie est essentiellement agricole hein, et c'est une économie de survivance pour l'instant. Donc ça n'est pas une économie de guerre en sens strict.
Les exemples d'économie de guerre que vient de donner Julien Malizard vous parlent? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la Libye a connu une économie de guerre? Est-ce qu'on a de ces informations-là?
Alors les données sur la Libye étaient extrêmement peu fiables, donc on peut vraiment comparer. Il y a un exemple qui m'a un peu frappé dans les données du Cypri qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la part des dépenses militaires dans le PIB du Koweït en 91, où là on a dépassé 100% du PIB. Statistiquement ça paraît fou. Donc là on a un exemple récent. Les conflits récents sont quand même des conflits d'intensité plus faibles que ceux qu'on a observés durant la première moitié du XXe siècle. Donc on n'a pas retrouvé, en dehors de quelques cas très spécifiques, le Koweït que j'évoquais tout à l'heure, récemment d'économie de guerre, en tout cas l'intégralité des moyens de production sont tournés vers la défense nationale.
On a parlé brièvement dans la première partie de l'émission des États-Unis, de leur puissance militaire. Qu'est-ce que ça représente dans le produit intérieur brut, dans la richesse américaine, l'industrie de la défense?
C'est assez fluctuant en fait, en pourcentage du PIB. Là où la France a eu quelque chose de tendanciellement à la baisse en termes de pourcentage du PIB, les États-Unis, c'est assez fluctuant en fonction des conflits majeurs dans lesquels ils s'insèrent. On a eu des pics au moment de la guerre du Vietnam, au moment du Reagan. On a eu des pics aussi après à partir de 2001. Où là, en fait, on a atteint quasiment 4%
donc,
du PIB.
Après les attaques.
Donc la guerre contre ce qu'on appelait la guerre contre le terrorisme a conduit à une augmentation. Et à partir de 2010-2011, on est sur une pente baissière. Et donc on est aux alentours de 3% du PIB actuellement. Mais donc, les perspectives sont plutôt de nouveau à la hausse.
À cause de Trump, Marianne Guy.
Voilà, à cause de Trump qui, manifestement, alors que dans son programme, il avait plutôt donné l'impression qu'il allait être isolationniste, il a manifestement décidé quand même d'augmenter le budget de la défense et d'intervenir comme on l'a vu très récemment.
À travers ce que vous dites tous les deux, il y a une plus grande réactivité, par exemple, de l'industrie militaire américaine que de l'industrie militaire française. Vous disiez qu'il fallait en France 10 ans pour former un soudeur et que donc les commandes étaient très lentes à déclencher une adaptation de l'appareil industriel. Ça a l'air beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide aux États-Unis.
Alors, aux États-Unis, en fait, le marché national américain de production suffit quasiment à satisfaire la demande des États-Unis, suffit à satisfaire la production nationale. Donc les États-Unis, après les exportations, c'est essentiellement des objectifs de puissance, de ce genre de choses. Donc du coup, les Américains sont beaucoup plus réactifs par rapport à ça, puisqu'en fait, du coup, ils n'ont pas besoin d'exporter pour protéger leur industrie. Ils sont déjà suffisamment... la commande nationale suffit largement aux industriels américains. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez différent de la France, où la France, elle, a besoin d'exporter. Les lois de programmation militaire, les deux dernières, ont fait des hypothèses d'exportation du Rafale notamment, la commande française ne suffit pas à assurer un volume de production suffisant à l'industriel français.
Oui, et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand Julien parle de 3%, c'est le budget de la défense américain, mais c'est pas ce que représente l'industrie de l'armement dans le PIB américain, ce qui est beaucoup plus important. Effectivement, les Américains aussi, quand ils veulent lancer une nouvelle chaîne de production pour un nouvel avion, j'imagine que ça prend aussi du temps pour eux, et que pour produire un nouvel avion, il leur faut aussi 10, 20 ou 30 ans.
On a eu le cas avec le F-35, qui est le nouvel avion de combat des Américains. Les retards ont été lors d'une dizaine d'années, et le coût du programme a complètement explosé. On est au-delà de 1000 milliards de dollars du coût du programme pour un développement d'avions de combat.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé?
Du coup, ils ont fait les innovations technologiques qu'ils voulaient mettre dans ce genre d'appareil. C'était des innovations un peu de rupture, et ils n'avaient pas les moyens technologiques de s'assurer du niveau qu'ils voulaient atteindre. Donc ils ont dû investir énormément. Trump, d'ailleurs, s'est plaint du dérapage du coût du programme. Et donc on a des exemples dans le naval aussi. Dans le naval, le dernier bâtiment de surface, le Zumwalt, qui a été lancé par les États-Unis, le coût du programme a littéralement explosé.
C'est quoi comme navire?
C'est un navire de surface, une croiseur, une frégate. D'accord. Et en fait, c'est un navire avec une proue inversée. C'est l'originalité. Tout droit sorti un peu de science-fiction. Et là où initialement le programme devait représenter environ 25 unités, 25 bâtiments, ils ont complètement revu la voilure à la baisse et ils en font plus que 3 parce que ça coûtait beaucoup trop cher à développer. Donc même dans le cas des États-Unis, même si la demande nationale suffit, on se rend compte que les Américains sont pas non plus subissent aussi des retards de production.
Marianne Guy.
Tout à fait. Il faut bien voir qu'il y a une course à la technologie dans tous les pays occidentaux, et les autres pays essayent de suivre aussi. Donc les produits d'armement sont de plus en plus sophistiqués, ils coûtent de plus en plus cher, et on va vers certainement moins de matériel, mais du matériel de plus en plus performant, ce qui fait que il y a vraiment un travail qui est fait d'ingénieurs, de recherche développement, vraiment très très important sur les nouveaux produits d'armement.
Est-ce que ça veut dire qu'on va vers moins d'armement mais mieux?
Oui, très certainement. On estime que les armées vont avoir moins de matériel parce que simplement un avion aujourd'hui, il coûte le prix de 10 avions il y a 10 ans, de 100 avions il y a 20 ans. On ne peut pas avoir le même volume d'armement, mais on aura un matériel qui sera de plus grande qualité.
Est-ce que ça freine une certaine course aux armements, Julien Malizard, ça, le coût de ces armes nouvelles?
La France produit des matériels, les États-Unis aussi, les Anglais, des matériels à très haute intensité technologique. Donc les acheteurs potentiels, ce sont forcément des pays qui ont des moyens budgétaires conséquents. Après, vous avez des producteurs type la Chine qui produisent des matériels un petit peu moins sophistiqués, mais dont les coûts de production sont plus faibles. Donc en fait, typiquement, sur l'ensemble du spectre des avions de combat, vous pouvez avoir des avions au top niveau technologique, et puis après, vous pouvez avoir des avions plus rustiques, en fait. Donc tout dépend, en fait, du niveau de la demande. Si jamais on est face à des acheteurs qui sont riches, dans ces cas-là, ça pose pas de problème. On peut acheter français, on peut acheter américain. Mais si on veut quelque chose de plus rustique, on peut s'adresser à soit des avions de seconde main. On en réexporte aussi. On exporte des avions de seconde main. Il y a un marché de l'occasion. En fait, on réexporte beaucoup de matériel français en Afrique pour équiper les armées africaines de matériel plus rustique, mais dont on sait
qu'il est plus résistant, donc aussi peut-être.
Ça dépend, parce que si on prend les véhicules de l'avant blindé, les VAB de l'armée française, ils sont pas du tout, ils ont un certain nombre de fragilités, alors même que, enfin, ils ont une quarantaine d'années. Enfin, le programme VAB a été lancé il y a 40 ans. Donc, plus rustique veut pas forcément dire mieux protégé. Ça veut dire qu'il y a moins de, moins d'électronique embarquée, et parfois même des fois, en fonction des théâtres d'opération, ils ne sont pas adaptés aux théâtres d'opération.
Pour alors, je voudrais revenir à l'expression que nous utilisions tout à l'heure, course aux armements. Vous disiez que le commerce mondial des armes était inférieur à ce qu'il avait été, même s'il remontait un peu. Ça veut dire qu'il n'y a pas en ce moment, malgré les bruits de bottes en Ukraine, malgré ce qui se passe en Syrie, malgré de multiples théâtres de tensions internationaux, malgré la Corée du Nord, il n'y a pas de course aux armements. En ce moment, on n'est pas dans une émulation militaire entre les puissances qui dominent le monde à l'heure actuelle.
Alors, il y a un phénomène, le pic de dépenses militaires, si on peut l'estimer, c'est 2010, là où les Américains avaient, avant la baisse des budgets américains. En fait, ce qui se passe désormais, c'est qu'on est plutôt sur un plateau où, en fait, les pays occidentaux ont eu tendance soit à maintenir constant, soit à avoir diminué très fortement, compte tenu des contraintes budgétaires qu'on évoquait tout à l'heure, leur budget de défense. Et c'est compensé par l'augmentation des budgets dans le Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. La course à l'armement, au niveau européen, on se rend compte que certains de pays veulent réaugmenter leurs dépenses militaires, mais sur des montants, sur des variations qui sont assez faibles. Là où, en fait, la Chine a multiplié par 5 son budget de défense depuis 2000, et la Russie a multiplié par 3. La France, sur la même période, a à peu près resté constante.
Multiplié par 5 pour la Chine ?
Oui.
Oui.
C'est considérable, Marianne Guy ?
Oui, tout à fait. Je pense que la Chine fait vraiment partie du groupe de tête des pays au niveau du budget. Et ces dépenses vont jouer un rôle beaucoup plus important, les dépenses de l'Inde également, parce qu'elles se réarment toutes les deux.
On estime que c'est à peu près le budget américain est 3 fois plus important que le budget chinois.
Donc, malgré la progression.
Donc les États-Unis gardent un leadership phénoménal sur les dépenses mondiales. C'est de l'ordre entre 35 et 40% du total mondial. Donc on est sur quelque chose c'est conséquent.
Eh bien, c'est sur cette parole définitive que se termine cette émission. Merci à vous deux, Marianne Guy et Julien Malizard, d'y avoir participé. Cette émission était réalisée et mise en onde par Guillaume Munier. Merci à l'équipe de la documentation écrite de RFI pour son aide. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.